L'enseignement de Bouddha est basé sur la loi du karma. Le karma en pali ou karma en sanskrit se traduit par les actions de chacun. Selon leur karma, les êtres sont amenés à prendre naissance sous des formes très diverses à travers les existences du samsara. Bouddha explique que la seule possession de tous les êtres est leur propre karma. La cause de tous les résultats positifs ou négatifs de la vie présente n'est autre que son propre karma. Il est la seule chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer, et il diffère pour chaque être. Les résultats ne surviennent que lorsqu'ils arrivent à maturité. Cela signifie que les êtres éprouvent les résultats de leurs actes sains ou malsains seulement quand les facteurs nécessaires à leur apparition parviennent à maturité. Il existe les kusala kamma et les akusala kamma. Bouddha enseigne que le facteur principal qui provoque les kusala kamma et les akusala kamma est le mental. La moindre des actions est produite par le mental. Si une personne produit un acte ou une parole à l'aide d'un état positif du mental, d'un bon état d'esprit, il en récoltera un bon résultat. De la même manière, dont une ombre accompagne toujours une personne, les résultats de ses actions l'accompagnent toujours à travers le samsara. Si une personne développe de bonnes actions, de bons résultats l'accompagneront. Si au contraire elle développe de mauvaises actions, de mauvais résultats l'accompagneront. Le résultat des actions accompagne celui qui les produit, comme la roue du chariot suit étroitement les pieds du bœuf. Tant que le moment n'est pas opportun, les résultats des actions positives ou négatives ne se produisent pas. Les résultats ne surviennent que lorsqu'ils arrivent à maturité. En son temps, le roi Milinda demanda au vénérable Nagasena. Vénérable Nagasena, vous, les bhikkhus, prétendez qu'en développant des actions positives, on bénéficie de résultats positifs. Quelle est la quantité de ces résultats positifs? Est-elle d'un empan, de quatre coudées? Montre-les-moi du doigt. Je ne crois que ce que je vois. Le vénérable Nagasena répondit au roi par l'interrogative à l'aide du même langage. Noble roi, j'ai également une question pour vous. Regardez cet arbre. Il jouit d'une bonne terre et d'eau. Il semble fertile. Pouvez-vous me dire si cet arbre donnera des fruits? Vénérable, cet arbre semble effectivement très mature. Puisqu'il jouit d'une bonne terre et d'eau, il est certain qu'il donnera des fruits. Puisque vous êtes certain que cet arbre est apte à donner des fruits, montrez-moi donc ses fruits. Où sont-ils? Dans la racine? Dans le tronc? Dans les feuilles? Dans les branches? Montrez-les-moi du doigt. Moi aussi, je ne crois que ce que je vois. Vénérable, étant donné que les fruits n'ont pas encore poussé, il n'est pas possible de les montrer à présent. Toutefois, je suis certain que cet arbre donnera des fruits lorsque le temps sera mûr. Noble roi, il en est exactement de même avec les résultats des kusala et des akusala, des bonnes actions et des mauvaises actions. Nul ne peut dire en quelle quantité ils se produiront, ni les montrer du doigt. Néanmoins, tout comme votre certitude que cet arbre donnera des fruits en raison des conditions favorables à cela, les actions méritoires, les kusala, et les mauvaises actions, les akusala, engendrent de façon certaine des résultats favorables et défavorables. Le roi Milinda approuva la réponse du vénérable Nagasena. Les résultats ne surviennent que lorsqu'ils arrivent à maturité. Il y a parfois des cas susceptibles de provoquer des doutes. certaines personnes s'investissent continuellement dans des actions saines. Elles effectuent des dons, observent une bonne conduite et s'entraînent à la méditation. Malgré cela, leur foyer est un terrain de disputes fréquentes, de lamentations, de maladies, de pauvreté et de peines en tout genre. À l'inverse, d'autres personnes commettent continuellement des actes malsains, tandis que leur foyer abrite la prospérité, et chacun y jouit d'une bonne santé et d'une bonne situation financière. Comment cela se fait-il, peut-on se demander? Les actes sains produisent-ils des résultats défavorables et les actes malsains produisent-ils des résultats favorables? Naturellement, il n'en est pas ainsi. Si les personnes ayant de mauvais agissements bénéficient de bonnes conditions, cela signifie simplement que le moment n'est pas encore mûr pour l'apparition des résultats de ces mauvais actes. Malgré tout, une fois que ces mauvaises actions auront atteint leur pleine maturité, elles se produiront inéluctablement et les aspects avantageux de la vie basculeront soudainement dans des aspects plutôt pénibles. C'est pourquoi Bouddha nous dit qu'en produisant des actes malsains, on peut bénéficier de bonnes conditions tant que le résultat de ces mauvaises actions n'est pas parvenu à maturité. Néanmoins, une fois qu'il sera arrivé à maturité, on subira les effets pénibles de ce résultat. Parallèlement, en produisant des actes sains, on peut bénéficier de conditions difficiles tant que le résultat de ces bonnes actions n'est pas parvenu à maturité. Toutefois, une fois qu'il sera arrivé à maturité, on jouira des effets favorables de ce résultat. D'où le dicton « Les résultats ne surviennent que lorsqu'ils arrivent à maturité ». Ainsi, les mauvaises actions, les akusala, engendrent des actions défavorables et les bonnes actions, les kusala, engendrent des résultats favorables. Le fait de tuer, de voler, d'avoir une mauvaise conduite sexuelle sont des akusala, et le fait de développer le don, la moralité, la méditation sont des actes kusala. Si l'akusala domine, de la misère sera engendrée, des souffrances physiques ou mentales, ou une renaissance dans les mondes inférieurs, les apayas. Le seul moyen de s'assurer d'être épargné de telles conséquences désastreuses est de s'efforcer de parvenir au stade de sotapanna. S'il est réalisé, les résultats des gros akusala sont écartés. De ce fait, les renaissances dans les enfers, chez les pétas ou dans le monde animal sont évitées. Une personne qui a rejeté les akusala au profit des kusala peut s'attendre à bénéficier de renaissances dans le monde des humains ou dans celui des devas ou dans celui des brahmas. Celui qui souhaite ne plus connaître le cycle des existences doit se débarrasser de tout kamma. Pour cela, il doit s'efforcer de parvenir au stade d'arahanta. Celui qui arrive à se délivrer complètement du kamma est épargné de toute nouvelle renaissance et par conséquent de la maladie, des vieillesses, des morts et de toute autre souffrance. Tant que ce stade n'est pas réalisé, les résultats des mauvaises et des bonnes actions pourront être éprouvés lorsque ces kammas arriveront à maturité. Toutefois, les résultats favorables ou défavorables des actes n'apparaîtront pas si tout le kamma a été écarté avant qu'ils ne parviennent à maturité. Le cas du vénérable Ananda illustre bien ce propos. Lors d'une précédente existence, il fut un orfèvre aussi riche que beau. Menant une vie de séducteur, il s'empara de la femme des autres, s'adonnant ainsi à la mauvaise conduite sexuelle. À l'issue de cette existence, il reprit naissance en tant que fils d'un homme riche. Il vécut heureux tout au long de cette nouvelle existence, car les résultats des akusalas dus à la mauvaise conduite sexuelle de sa vie précédente n'avaient pas encore mûri. Pendant cette existence, il produisit de bonnes actions, des kusalas, avec persévérance, comme la pratique du don, la moralité, metta, l'amour bienveillant, et la méditation, jusqu'à sa mort, après laquelle il reprit naissance dans l'enfer, dans lequel il connut une vie des plus malheureuses. Les résultats des bons actes produits tout au long de son existence précédente n'étaient pas encore mûrs. En revanche, ce furent ceux des mauvais actes produits lors de son avant-dernière existence qu'il était. Après avoir subi une longue et misérable existence au sein de l'enfer, étant donné qu'il restait encore des mauvaises actions, le futur vénérable Ananda reprit naissance dans le monde animal en tant que bouc. Grand et bel animal que fut ce bouc, il fut châtré et réduit à être un amusement pour les autres. Les enfants le montaient, et les adultes aussi. Prenant de l'âge, le bouc fut envoyé à la boucherie, où on le tua pour sa viande. La vie suivante, il devint un singe. Le chef du clan dont il faisait partie était jaloux de lui. Il avait peur qu'une fois devenu grand, il soit susceptible d'être un rival. En raison de cette crainte, il lui écrasa les testicules et le tua. Sa vie suivante fut celle d'un taureau. Comme le taureau était fort et en bonne santé, ses propriétaires le castrèrent en lui écrasant les testicules afin de l'employer comme un moyen de transport de charges lourdes. Une fois que l'animal fut affaibli par l'âge, on l'envoya à la boucherie. Il reprit naissance comme être humain dépourvu de sexe, c'est-à-dire qu'il ne fut ni un homme ni une femme. À la suite de cette existence malheureuse, il naquit 5 existences de suite dans le monde des Devas, en tant que femme de Deva. Lors de cette 5e existence en tant que Deva, il fut Rucha, la fille du roi Angati. Toutes les existences pénibles que le futur vénérable Ananda connut, jusqu'à celle où il fut la fille du roi Angati, ne sont que le résultat de sa mauvaise conduite sexuelle commise lorsqu'il fut un riche orfèvre. Au terme de cette existence, le temps devint mûr pour les résultats des actes saints produits lors de sa riche existence qui suivit celle d'orfèvre. Libéré des conséquences fâcheuses, il naquit ainsi en tant que Deva masculin menant une vie heureuse. La vie suivante l'amena dans le monde humain où il fut le cousin du prince Siddhartha, le Bouddha. 20 ans après que ce dernier ait atteint l'éveil et soit ainsi devenu Sammasambuddha, le Bouddha omniscient, le vénérable Ananda devint son préposé. Doté d'une mémoire remarquable, il fut la seule personne capable de mémoriser intégralement les 84 000 enseignements que Bouddha délivra tout au long de ses 45 ans de vie en tant que Bouddha omniscient. 100 jours après le Parinibbana de Bouddha, s'est tenu le premier grand concile. À la veille de celui-ci, le vénérable Ananda n'était encore qu'un sotapanna. Il fut tout de même choisi pour mener à bien ce concile avec 499 arahants, car il fut le seul ayant pu mémoriser l'intégralité des enseignements de Bouddha. Comme un des participants avait nargué le vénérable Ananda sur le fait qu'il était le seul des 500 participants à être toujours empêtré dans les kilesas, les impuretés, ce dernier décida de s'atteler ardemment au Satipatthana avant le début du concile. Alternant les assises et les marches, il s'entraîna toute la journée à l'observation attentive des phénomènes physiques et mentaux. Il se demanda pourquoi il ne parvenait toujours pas au stade d'arahant alors que le Bouddha lui-même lui avait dit qu'il était prêt d'y parvenir en raison de ses fortes paramis. Une fois le milieu de la nuit passé, lorsque le sommeil apparut de manière écrasante, il éprouva le besoin d'aller se reposer. Parvenant devant son lit, Il nota la posture debout, ainsi que tous les mouvements de la procédure d'abaissement et d'allongement du corps. Alors qu'il était en train de noter le mouvement du corps qui s'étend sur le lit, avant même que sa tête et ses pieds n'entrent en contact avec le lit, il réalisa successivement les stades de Sakadagami, d'Anagami et d'Arahante. Il devint par la même occasion le seul être à avoir atteint le stade d'Arahante en dehors des quatre postures, c'est-à-dire en dehors de la marche, debout, l'assise et allongé. Devenant Arahante, le vénérable Ananda se débarrassa donc de tout kamma. Par conséquent, il s'est totalement affranchi des nouvelles existences, car dépourvu de kamma, ses actes n'engendrèrent plus de résultats. Dans ses sermons, Bouddha explique qu'il y a trois sortes de personnes. Les personnes étant aveugles des deux yeux, les personnes ne voyant que d'un œil, les personnes voyant des deux yeux. Ici, naturellement, le mot œil est employé comme métaphore pour désigner la sagesse. Un jour, Bouddha demanda « Ô moine, savez-vous quelles sont les personnes aveugles des deux yeux ?» Et voici la réponse qu'il donna. Certains sont aveugles des deux yeux. Ceux-là n'ont pas l'instinct pour les affaires, ils ne sont pas habiles pour diriger une entreprise et n'ont aucune compétence pour obtenir des biens. Ils sont incompétents dans tout ce qu'ils entreprennent et sont paresseux. Par conséquent, ils sont pauvres et ne subissent que des échecs dans la vie présente. Ils n'ont aucune sagesse non plus pour préparer avantageusement leurs existences prochaines à travers le samsara. Ils ne comprennent pas la qualité méritoire des kusalas et la qualité déméritoire des akusalas. C'est pourquoi ils n'ont aucune motivation pour pratiquer le don, la moralité et la méditation. Ainsi, une personne qui laisse sa vie présente en échec et son cheminement à travers le samsara en échec est appelé une personne aveugle des deux yeux. Une fois, dans le royaume de Varanasi, vivait un homme riche. Lorsqu'il était jeune, étant fils unique, ses parents ont fait preuve d'un amour sans limite à son égard. Ils ont toujours pris grand soin de lui de façon à s'assurer qu'il demeure constamment dans le confort et le luxe le plus complet. N'ayant jamais été instruit, il demeura seulement dans les réjouissances faciles de l'existence. De ce fait, il est devenu un enfant gâté, ne connaissant rien des complexités de la vie. Il n'avait aucune compréhension des répercussions des kusalas et des akusalas d'une vie sur l'autre, ni aucune capacité à gérer quelque affaire que ce soit. Après la mort de ses parents, il n'a eu aucun moyen de préserver la richesse qui lui avait été léguée. Il a donc rapidement gaspillé toute cette fortune. De plus, il n'a jamais saisi l'opportunité d'effectuer des actes méritoires pour s'assurer des renaissances favorables. Il a donc sombré dans la pauvreté et une fois parvenu à l'issue de cette misérable existence, il a repris naissance dans les mondes inférieurs. Ne voyant pas l'intérêt d'une bonne gérance de l'économie et ne voyant pas les bénéfices des kusalas, un tel être est une personne aveugle des deux yeux. Ô moine, certains n'y voient que d'un œil. Ceux-là sont compétents pour les affaires et habiles pour s'entretenir dans une existence prospère. En revanche, ils n'ont aucune sagesse pour préparer avantageusement leurs existences prochaines à travers le samsara. Ils ne comprennent pas la qualité méritoire des kusalas et la qualité déméritoire des akusalas. C'est pourquoi ils n'ont aucune motivation pour la pratique du don, de la moralité et de la méditation. Ainsi, lors de leur prochaine existence, ils tomberont dans la misère des apayas, le monde animal, le monde des asuras, le monde des pétas ou le monde des enfers. De nos jours, la majorité des humains appartiennent à cette catégorie. Ainsi, Une personne qui obtient le succès dans sa vie présente mais qui laisse son cheminement à travers le samsara en échec est appelée une personne ne voyant que d'un œil. Ô moine, certains y voient des deux yeux. Ceux-là sont compétents pour les affaires et habiles pour s'entretenir dans une existence prospère. Toutefois, ils sont suffisamment sages et prévoyants pour raisonner ainsi. À présent, je jouis d'une qualité de vie confortable et dispose d'une fortune satisfaisante. Cependant, je ne pourrais pas compter indéfiniment sur mes biens. Un danger tel que l'eau, le feu ou le vol peut s'en emparer n'importe quand. Au moment de la mort, je serai de toute façon obligé de tout abandonner. Ces êtres comprennent que tout comme les affaires, le corps est éphémère. Ils savent qu'il est vain de s'attacher aux possessions et même au corps qui est inéluctablement soumis à la vieillesse, à la maladie et à la mort. Ainsi, à l'aide d'une détermination adéquate, ils investissent leurs efforts dans le développement des kusalas, comme la pratique du don ou la moralité, s'abstenant de tout akusala par le corps et la parole, et ils s'entraînent au développement de vipassana bhavana, la méditation. Ainsi, une personne qui a l'intelligence de développer le succès dans sa vie présente, sans toutefois regretter les éventuelles pertes de ses biens accumulés, et aussi l'intelligence de s'efforcer à préparer des renaissances favorables en développant le don, la moralité et la méditation, à l'œil de la sagesse qui voit des deux côtés. Une telle personne est appelée une personne voyant des deux yeux. Du temps de Bouddha, dans le royaume de Varanasi, vivait un commerçant du nom de Mahadana. Il était un homme d'affaires habile. Au royaume de Savati, une grande fête traditionnelle fut sur le point d'être célébrée. En apprenant cela, il acquit à prix raisonnable une importante provision de vêtements teintés en rose, très à la mode en ce temps-là. Il affréta à l'aide de ses subalternes un convoi de 500 chars à bœufs pour le transport de ses vêtements jusqu'à Savati, dans le but de faire du commerce. À la tombée de la nuit, ils parvinrent devant une rivière située près de Savati. Trop tard pour la traverser, ils décidèrent d'attendre le lendemain et établirent alors un campement pour la nuit. À partir du milieu de la nuit, il s'est mis à pleuvoir violemment durant 7 jours sans répit. De ce fait, Mahadana et son convoi de 500 chars à bœufs sont restés bloqués sur la rive, dans l'impossibilité de traverser la rivière pendant toute cette semaine. Ces 7 jours passés, comme la pluie cessa, le commerçant et son convoi purent enfin traverser la rivière. En arrivant à Savati, le commerçant constata que la fête était finie et que par conséquent il n'y avait plus de clients potentiels pour acheter ses vêtements roses. L'autre ennui fut le voyage de retour à Varanasi très coûteux. Après être retourné près de son convoi, il analysa la situation. Il conclut que le mieux était de rester toute l'année à Savati, espérant ainsi vendre sa marchandise jusqu'à faire un bénéfice satisfaisant. À ce moment, accompagné de son fidèle cousin le vénérable Ananda, Bouddha effectuait sa ronde quotidienne. En passant devant le campement de Mahadana, lorsque Bouddha aperçut le commerçant, il fit un grand sourire éclatant, d'une intensité telle qu'une lumière rayonna à travers tous les environs. Voyant cela, le vénérable Ananda demanda au bienheureux la raison d'un tel sourire. Bouddha lui désigna alors l'homme d'affaires Mahadana, en indiquant qu'il lui restait seulement 7 jours à vivre, et qu'en dépit de cela, il venait de projeter de rester une année entière à Savati jusqu'à vendre la totalité de sa marchandise. Ensuite, Bouddha réitéra que tout le monde fait des projets d'achat et de vente pour de longues périodes de temps, avant même de pouvoir faire des profits, sans réfléchir un seul instant à la caractéristique de l'impermanence, anicca. les gens ne sont pas conscients de cette loi inéluctable. Ils n'investissent leurs réflexions que dans leurs intérêts économiques, ne sachant pas que la maladie, la vieillesse ou la mort peut les anéantir avant que leurs projets se réalisent. À ce moment, épris de compassion pour le commerçant qui allait mourir dans 7 jours sans avoir développé de bon kusala, le vénérable Ananda demanda à Bouddha de le laisser aller l'avertir. La permission lui étant accordée, il s'introduisit dans le camp de l'homme d'affaires pour le mettre en garde contre le danger qui le guette. Apercevant le vénérable Ananda arrivé parmi eux, le commerçant Mahadana et ses hommes lui adressèrent de respectueuses paroles de bienvenue. Le vénérable les interrogea sur la raison de leur présence en ce lieu et sur leurs intentions. Le commerçant expliqua en détail la raison de sa venue ici avec son convoi, ainsi que ses projets de commerce pour l'année à venir. Le vénérable Ananda expliqua donc au commerçant que Bouddha a dit qu'il ne lui restait plus que 7 jours à vivre malgré ses projets à long terme, lui rappelant aussi que le bienheureux ne s'est jamais trompé. Prenant conscience de la situation, le commerçant Mahadana déclara « Toutes mes possessions et toutes mes richesses ne me seront d'aucune valeur lorsque je serai mort. Avant de mourir, je vais me consacrer au développement des kusalas, que sont le don, la moralité et la méditation. » Sur ces paroles, il formula au vénérable Ananda une invitation pour le lendemain, à Bouddha et aux membres du Sangha, à venir recevoir la nourriture auprès de son camp. Le jour suivant, lorsque Bouddha arriva accompagné de ses moines, le commerçant les invita à nouveau. Il en fut ainsi pour chacun des 7 jours pendant lesquels le commerçant Mahadana et tous ses hommes pratiquèrent le don, la moralité et la méditation. Le 7e jour, le commerçant se rendit au monastère de Bouddha pour lui apporter son bol. Sur le chemin du retour, il mourut paisiblement et parvint au monde des Devas en raison des kusalas développés durant ces 7 jours. Celui qui possède l'intelligence de développer le succès et la richesse dans cette vie présente, et qui possède aussi la sagesse de parvenir à des renaissances favorables grâce à la pratique du don, de la moralité et de la méditation, est considéré comme une personne voyant des 2 yeux.